Radio Okapi.
Grève des pétroliers dans le Grand Katanga. La question réunit le gouvernement et une forte délégation des pétroliers à Kinshasa. Une solution est attendue d'ici demain, assure le président de la FEC. Vous l'entendrez. La ville de Lubumbashi abrite les travaux mixtes de la défense RDC Zambie. Il s'agit pendant 5 jours de plancher sur les questions de défense, de sécurité d'État et de sécurité publique pouvant surgir entre les deux pays. C'est ce qu'indique le ministère congolais de l'Intérieur. Et puis ce soir, nous recevons la directrice de la fondation Antonia Kindanda, basée à Kindu. Elle explique le sens de la collecte du sang. Une campagne est en cours au chef-lieu du Maniema. Elle vise les associations des jeunes. Madame, Messieurs, bonsoir. Le mouvement de grève déclenché il y a quelques jours par les pétroliers du Grand Katanga au centre des discussions entre le gouvernement et une forte délégation des pétroliers à Kinshasa. Ces derniers estiment en effet que si le gouvernement ne revoit pas la structure des prix des produits pétroliers, ils vont continuer à travailler à perte. Selon le président de la FEC qui a pris part à une importante réunion aujourd'hui à Kinshasa entre une délégation de la FEC du secteur pétrolier des provinces du Haut Katanga, du Lualaba et du Nord Kivu, une solution est attendue d'ici demain mercredi. Albert Yuma, président de la FEC, dans ses propos recueillis par Pele Kipela Mondo.
Il y a une crise qui a été déclenchée par, je dirais, un échec, je dis bien relatif, des précédentes négociations sur la révision de la structure des prix pour la zone sud-est. Et le Premier ministre est celui qui a invité de nouveau cette délégation à revenir à Kinshasa pour montrer l'importance qu'il attache à trouver la solution à ce problème. D'emblée, il nous a rassuré qu'il comprenait les revendications d'équité et de justice dans l'établissement des termes de la structure de prix entre toutes les zones du pays. La réunion d'aujourd'hui devait être mise sous le signe de l'ouverture et du dialogue franc et sincère sans arrière-pensée. Et effectivement, dans la conduite de la discussion, nous avons compris et été rassurés de la part du Premier ministre lui-même et des deux membres du gouvernement qui l'accompagnaient qu'ils étaient ouverts. Et nous avons cru comprendre qu'on ne repartira pas au Katanga et au Nord Kivu sans la bonne solution, qui est de rétablir la justice et l'équité. C'est-à-dire que aujourd'hui, cet après-midi, on aura encore 2 réunions qui vont sans doute se terminer demain. On aura une nouvelle structure de prix qui aura pris en compte la majorité, si pas toutes les revendications des pétroliers du Sud et de l'Est.
Et cette grève des pétroliers du Haut Katanga a déjà des répercussions au Kasaï oriental. Depuis hier, plusieurs dépôts de vente des produits pétroliers de Mbujimayi sont fermés. Les importateurs se plaignent de la vente à perte de leurs marchandises depuis le début de la grève. Le président de l'association des importateurs des produits pétroliers du Kasaï oriental, Apicor, justifie cette fermeture par la hausse du prix de carburant à Lubumbashi, où il s'approvisionne régulièrement. Le prix du litre d'essence est passé de 2000 francs à 4000 francs congolais à Lubumbashi, tandis qu'à Mbujimayi, le même litre coûte actuellement 2400 francs congolais. Kalu Chitenda, président provincial de l'association des importateurs des produits pétroliers, explique au téléphone de Esther Ndalafina.
Il y a une baisse puisque on profitait le prix qui était à Lubumbashi là. Quand le gouvernement avait baissé le prix, quand il avait enlevé certaines taxes à partir de nos producteurs, c'est sûr que ici, chacun qui amenait son carburant ici, comme il était obligé de vendre pour payer les propriétaires du camion, et entre temps, il faisait les calculs comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver. Ici, on ne trouve pas l'argent, mais à partir de l'embauche sur les achats, on pouvait bénéficier seulement la quantité et plus encore les quelques bénéfices. Maintenant, c'est fermé. Même ici, il y a une déséquilibre totale. Toutes les maisons sont fermées, puisque 1 litre à l'embauche coûte déjà 4000 francs congolais. Mais tandis que ici, c'est 2000 francs. C'est sur base de cette baisse-là que les gens venaient avec leur carburant ici pour vendre et récupérer sur l'achat. Avant que ce soit la fin de la semaine, vous verrez même le tableau là changer. Parce que nous, on ne saura pas comment vendre et puis aller acheter à un prix cher. À moins cher ici, tandis que là-bas, ils ont augmenté les prix. D'ailleurs, à Lubumbashi, ils ont fermé partout. Ici, les gens commencent à revoir leurs calculs qui seront maintenant dans une perte totale. Parce que si vous faites les calculs plus les transports, vous n'allez pas vous retrouver. Vous allez tomber dans une perte.
Je vous le disais en titre, coup d'envoi ce mardi à Lubumbashi de la 10e commission mixte défense et sécurité RDC Zambie. Pendant 5 jours, les experts des deux pays vont plancher sur la sécurité publique, la sécurité d'État et la défense. Outre la province du Haut-Katanga, le Lualaba et le Tanganyika y prennent aussi part. Cette rencontre, qui est un cadre d'échange et de réflexion, intervient quelques jours seulement après le retrait des troupes zambiennes du sol congolais dans le Tanganyika. Le gouverneur du Haut-Katanga a demandé aux participants qui vont travailler en sous-commission de traiter sans complaisance tous les aspects des problèmes, dont ceux liés à la sécurité le long des frontières communes entre les deux pays. L'ambassadeur de la RDC en Zambie et son homologue zambien en poste à Kinshasa participent aussi à ces travaux, compte rendu de Jean Gandou.
Le premier à prendre la parole était le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Benachou Boabois a indiqué que les présentes assises ont un cadre approprié d'échange et de réflexion sur les questions de défense, des sécurités d'État et des sécurités publiques qui peuvent surgir entre les deux pays. Pendant ces 5 jours de travaux, il sera aussi question d'évaluer le degré d'exécution des recommandations d'intérêt commun prises au cours des sessions précédentes. Il a émis le vœu de voir ces assises déboucher sur les recommandations qui pourront promouvoir la paix et la sécurité le long des frontières communes. Pour sa part, le représentant des experts zambiens et secrétaire permanent au ministère de la Défense, Victor Piri, a souligné que la Zambie s'est engagée à travers ses délégués à résoudre tous les problèmes qui surgissent le long de la frontière entre les deux États. Il a demandé à tous les participants de travailler ardemment afin de trouver des voies et moyens pour résoudre tous les problèmes liés notamment à l'insécurité le long de la frontière entre les deux pays. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a demandé que les experts qui vont travailler dans les sous-commissions engagent les débats francs et sincères pour le bien-être des peuples congolais et zambiens. Cette rencontre intervient quelques jours seulement après le retrait des troupes zambiennes du sol congolais. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, il se tient depuis hier à Komanda la table ronde sur la situation sécuritaire et humanitaire dans le territoire d'Irumu. Nous sommes à 75 km au sud de Bunia. Prennent part à ces assises des députés nationaux et provinciaux ainsi que des notabilités de cette entité territoriale. Selon le député national Jackson Aoussé, l'objectif de ces rencontres qui vont durer 3 jours est de discuter de la problématique des conflits armés et la situation des déplacés dans plusieurs villages d'Irumu et d'y proposer des pistes de solutions. Le député Jackson Aoussé, joint par Martial Kiza.
Il s'agira question de faire une évaluation globale des situations sécuritaires et humanitaires des territoires d'Irumu et aussi proposer des pistes de solutions à terme de recommandations par rapport à tout ce qui sera constaté comme problème sécuritaire dans les territoires d'Irumu. Donc vraiment la table ronde elle sera vraiment axée sur l'évaluation minutieuse entité par entité des problèmes sécuritaires dans les territoires. Nous avons un député national de Walendu Bindi, à la personne de l'honorable Babangu, et nous avons aussi l'honorable Adirodu qui est à route, il vient. Donc, le fait pour une ou deux personnes ne pas être présents avec nous, mais cela ne signifie pas que les gens ne peuvent pas parler, parce que les gens refusent de parler. Celui qui refuse le dialogue, il est extra-humain.
Notez cependant que la communauté de Walendu Bindi ne s'est pas présentée à cette rencontre, disant craindre pour la sécurité de ses membres. Le président de la communauté de Walendu Bindi sollicite la délocalisation de cette rencontre de Komanda vers Bunia. Entre-temps, dans le nord Kivu, des déplacements des populations sont observés dans la localité des Ringeti, située à une 50aine de kilomètres au nord de Beniville. Ces dernières fuient les affrontements entre les FARDC et les rebelles ADF dans certaines localités du groupement Bambou Bakisiki. Le délégué du gouverneur à Ringeti plaide pour une assistance à ces déplacés hébergés dans des familles d'accueil. Marc Marofimbo nous en dit plus.
À en croire le délégué du gouverneur à Ringeti, c'est depuis le jeudi dernier que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont lancé des opérations militaires contre les positions des rebelles ougandais localisées à plus ou moins 4 km au nord-est d'agglomération de Kainama. Plusieurs localités qui jusque-là étaient sous contrôle de ces rebelles ougandais sont désormais passées sous contrôle des FARDC après des violents combats, ajoute-t-il. Ces affrontements se sont poursuivis même ce dimanche sur la crête de Mavume, toujours dans le groupement Bambou Bakisiki. Comme conséquence, la population de cette contrée se déplace en masse vers Ringeti, où elle se trouve dans des familles d'accueil, mais sans aucune assistance. Les délégués du gouverneur à Ringeti plaident pour une assistance humanitaire à ces déplacés. Sadik Mbafumoja.
C'est compliqué, vous savez, chez nous ici même, il n'y a même pas des ONG qui arrivent ici pour l'assistance. Nous sommes là, il reste toujours dans des familles d'accueil. Nous continuons à faire des alertes au niveau des humanités. Bon,
Sadik Mbafumoja ajoute que le comité local des déplacés à Eringeti a déjà commencé l'identification de ces déplacés en attendant une quelconque assistance de la part du gouvernement et de ses partenaires humanitaires. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Parlons santé avec cette bonne nouvelle dans la lutte contre Ebola dans la province de l'Équateur. Madame Julienne Ekila, veuve dont le mari est décédé de la maladie à virus Ebola, a été déchargée ce mardi au centre de traitement d'Ebola de l'hôpital général de référence de Wangata dans la ville de Mbandaka. Celle qui a vaincu Ebola appelle ceux qui résistent aux appels de l'équipe de riposte d'aller se faire soigner parce que, fait-elle remarquer, Ebola n'est pas une fatalité. Reportage de Blaise Makassi depuis la ville de Mbandaka.
Visage rayonnant et accompagné par l'équipe de riposte, Madame Julienne Ekila quitte le centre de santé Ebola de Wangata, situé en face de l'hôpital portant le même nom. Celle qui est arrivée, selon ses propres termes, dans un état critique, retrouve les membres de sa famille après des jours passés dans ce centre. Tous les tests effectués renseignent que les virus ne circulent plus dans son corps et qu'elle ne représente plus un danger pour ses proches, indique le corps médical. La personne guérie recommande à ceux qui ont peur de se rendre à l'hôpital pour se faire soigner, de ne pas céder à la panique, car, dit-elle, la prise en charge rapide permet aux malades de vite se rétablir. Accompagnée par une équipe de l'UNICEF pour retrouver sa maison, Madame Ekila a bénéficié d'un kit de réinsertion composé essentiellement de lait en poudre, sucre, riz, haricots, sel pour reprendre normalement sa vie. 84 cas de la maladie à virus Ebola ont été enregistrés dans la province de l'Équateur, dont 80 cas confirmés et 4 cas probables. 36 personnes sont décédées et 36 autres sont guéries. Mbandaka, Blaise Makassi, Radio Kapi.
Par ailleurs, à Goma, désormais toute personne qui ne porte pas de cache-nez ou masque en public sera arrêtée. Décision prise par le gouvernement provincial du Nord Kivu pour obliger la population à respecter cette mesure. C'est le ministre provincial de l'Intérieur qui fait l'annonce. Par cette mesure, le gouvernement veut réduire le nombre des nouvelles contaminations au coronavirus en hausse dans cette province depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire. Le point avec Rosalie Zawadi.
Passer sa journée sous le soleil, sur les sables brûlants du stade Les Volcans jusqu'au soir, en cette période de saison sèche, voilà ce qui attend les personnes qui oseront sortir de chez elles ce mercredi sans porter leur cache-nez. Devant la flambée des cas de COVID-19 à Goma, le gouvernement provincial ne va tolérer aucun relâchement dans le respect des mesures barrières, avertit le ministre Jean Bosco Sebichimbo.
Nous allons obliger la population à observer les mesures barrières. Demain mercredi, nous allons faire un bouclage. Et ceux-là qui vont oser sortir sans cache-nez, nous allons les arrêter. Nous allons les amener au stade du volcan. Ils vont passer la journée là-bas. Si on n'engage pas un combat acharné contre cette pandémie, le Nord Kivu sera évité. Et sur le plan économique, nous allons en souffrir. Et même notre population va en souffrir.
Selon les statistiques de lundi, le Nord Kivu a déjà enregistré 446 cas de COVID-19 et occupe maintenant la deuxième place après Kinshasa. Une situation que le gouvernement provincial veut à tout prix changer. Pour cela, il compte sur l'engagement de toute la population dans la lutte. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Sachez aussi que désormais, tout enterrement sera fait par des équipes de la riposte contre le coronavirus dans le Nord Kivu. Cette décision ressort de la rencontre d'hier entre le ministre provincial de la Santé, Kakule Kanyere, et les partenaires internationaux du domaine. Le maire intérimaire de Beni, Modeste Bakwanamaa, qui a participé à cette rencontre, parle d'enterrement digne et sécurisé désormais. On l'écoute.
Nous venons d'arrêter les mesures au cours de cette rencontre, telle que désormais les EDS ou les équipes de l'enterrement digne et sécurisé vont ramasser tous les corps dans les structures de santé. Si quelqu'un arrive à mourir dans une structure de santé, nous demandons à la population ou la famille de laisser cette tâche aux équipes de EDS, vont être conduits à la morgue par les équipes de la riposte. Et ce sont ces mêmes équipes de la riposte contre le COVID-19 qui vont s'occuper de l'enterrement et la famille ne sera représentée que par une petite poignée de personnes. C'est-à-dire, c'est le même schéma que pour Ebola. Nous revenons au schéma qui faisait qu'on sort les corps de la morgue pour les cimetières. Ça, c'est une mesure. Et une mesure beaucoup plus générale pour nous tous, c'est le port des masques ou cache-nez. En tout cas, à Beni, nous devons comprendre que la maladie est déjà là et les gens sont en train d'en mourir.
Actualité, Afrique Monde.
Coronavirus. La Russie affirme avoir développé le premier vaccin. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le président russe lors d'une vidéoconférence assurant qu'il donnait une immunité durable. Vladimir Poutine a même affirmé qu'une de ses filles a participé à l'expérience, affirmant qu'elle avait eu un peu de température et c'est tout. Ce vaccin sera mis en circulation le 1er janvier 2021, selon le Registre national des médicaments du ministère de la Santé, consulté par les agences de presse russes. Rappelons que la Russie avait assuré ces dernières semaines la production prochaine des milliers de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus et plusieurs millions dès le début de l'année prochaine. L'OMS avait réagi en plaidant pour le respect des protocoles et réglementations en vigueur. Au Tchad, le président Idriss Déby a été officiellement élevé à la dignité de maréchal du pays. C'était au cours d'une cérémonie à l'Assemblée nationale aujourd'hui, 11 août, date du 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Je continuerai d'être le premier garant de la liberté de mes concitoyens, a promis le président Déby, 68 ans, dont 30 passés au pouvoir. Il a dit lors d'une cérémonie au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale à N'Djamena, où l'anniversaire de l'indépendance a à peine été mentionné selon l'AFP. Et puis, les Égyptiens se sont rendus aujourd'hui au bureau de vote pour élire la chambre haute du Parlement, un scrutin sans enjeu et peu à même de raviver la vie politique sous le régime du président Abdel Fattah al-Sissi. Les candidats aux 200 des 300 sièges à pourvoir au Sénat sont essentiellement des partisans du chef de l'État.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons la directrice de la Fondation Antonia Kindanda. Cette organisation mène une campagne de collecte du sang actuellement dans la ville de Kindu. Madame Antonia Gox Kindanda, de nationalité française, explique le sens de cette campagne qui vise les associations des jeunes. Elle est avec Mathieu Ilunga.
Madame Antonia Gox Kishabongo, bonjour.
Bonjour.
Madame, en quoi consiste cette campagne? Elle est organisée avec quel objectif?
Au fait, il s'agit d'une campagne de collecte de sang qu'organise ma fondation, la fondation Antonia Kindanda, ici dans la ville de Kindu. Donc nous sommes en train de collecter le sang afin d'approvisionner la banque de sang de notre hôpital général de référence.
C'est sur demande ou bien vous avez constaté un besoin, une rupture de stock ou vous avez voulu le faire?
Je le fais parce que j'ai constaté qu'il y avait un besoin. Vous savez, je vis à Kindu, cela fait déjà plusieurs années, et j'entendais souvent beaucoup de morts, des femmes qui décédaient en couche, des enfants de 0 à 5 ans qui décédaient facilement dû à l'anémie causée par le paludisme, l'anémie causée par la malnutrition. En entendant tout cela, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il autant de morts? D'où je viens, je n'avais jamais entendu autant de décès en si peu de temps et dans un environnement si proche. Alors j'ai appelé les médecins et j'ai demandé, mais dites-moi un peu la cause de ces morts. Et c'est alors qu'ils m'ont expliqué que l'une des causes était le manque de sang disponible dans les banques de sang de l'hôpital. C'est alors que je me suis dit non. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Dites-moi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà, nous pouvons lancer une collecte de sang. Et nous nous sommes mis au travail et c'est là que vous nous avez trouvés. Nous sommes déjà aujourd'hui à notre 5e descente où nous collectons le sang auprès des donneurs bénévoles dans toute la ville de Kindu.
Madame, vous voulez faire dans un but lucratif ou vous attendez quelque chose de l'hôpital ou bien des bénéficiaires?
C'est vraiment par amour de notre communauté et nous voulons voir les gens être épargnés de la mort parce que nous ne pouvons pas voir les gens mourir comme ça et rester insensibles, ne rien faire. Non, non, c'est vraiment par amour et par humanisme que nous le faisons.
Vous parlez de la 5e descente aujourd'hui. Peut-on avoir un peu une idée sur ce que vous avez déjà collecté?
D'après le rapport que j'ai reçu auprès des techniciens de l'hôpital général encore ce matin, nous avons déjà fait une collecte d'environ 105 poches de sang collectées sur les 2 semaines et demie pour lesquelles nous venons de travailler.
Une expérience de la Fondation Antonio, comment cela est apprécié par l'hôpital général, le bénéficiaire par ricochet?
Nous sommes vraiment en train d'appuyer leur démarche. Je pense que ce sont des professionnels de santé qui sont là pour soigner les gens et non voir les gens mourir. Quand ils ont désormais du sang disponible, ça ne peut que les soulager parce que lorsque un cas d'anémie, un cas d'hémorragie se présente, ils peuvent facilement réagir et sauver des vies.
Je ne sais pas comment quelqu'un qui n'est pas un corps médical, formé médical, peut penser à promouvoir une activité médicale.
Nous vivons au milieu des gens, nous vivons avec les gens et nous écoutons les gens. Je pense que toute personne qui a souci de son prochain a le temps d'écouter et de savoir ce qui se passe. En écoutant, nous comprenons qu'il y a un besoin et ce besoin sanitaire existe, même si nous ne sommes pas du corps médical, mais nous répondons par rapport aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Effectivement, je dois remercier et féliciter les associations de jeunes parce que nous n'avons pas voulu travailler seuls, parce que nous avons surtout visé les jeunes pour cette collecte de sang et nous nous sommes mis en synergie avec les différentes associations des jeunes dans la ville de Kindu et ce sont eux qui sont les premiers donneurs et les premiers sensibilisateurs donc dans cette campagne.
Une idée sur les messages que vous pouvez lancer aux donneurs.
Et nous sommes très ravis parce que nous avons eu une très bonne réaction de la communauté. Ils ont tout de suite compris que c'était une affaire de la communauté. Ce n'était pas l'affaire d'un individu. Les gens réagissent avec amour et les gens donnent bénévolement parce que nous sommes en train de parler de donneurs bénévoles. On ne peut pas acheter le sang. Le message que je lancerai, je leur dirai un grand, grand, grand merci pour toutes les vies qu'ils sont en train de sauver à travers leurs dons.
En dehors de cette activité que mène la Fondation Antonio, les domaines dans lesquels cette fondation intervient.
Oui, la fondation a sa branche humanitaire. D'abord, ce sont ces actions que nous posons. Nous avons assisté nos frères et sœurs sinistrés à travers quelques vivres et des consultations médicales gratuites avec des médicaments. C'est là ce que nous faisons dans notre branche humanitaire. Mais nous avons aussi la branche de développement et là nous formons pour l'auto-prise en charge. Nous regardons les couches les plus démunies, les femmes, les jeunes et nous travaillons des formations professionnelles afin de les permettre de se prendre en charge rapidement. Et nous sommes aussi dans la sécurité alimentaire. Nous cultivons les champs parce que les gens ont besoin de manger et nous ne voulons plus voir la malnutrition, voir la faim dans notre environnement.
Madame Antonio, je vous remercie.
Merci à vous.
Voilà, c'était là notre invitée, la directrice de la Fondation Antonia Kindanda. Elle porte le même nom. Elle s'entretenait avec Mathieu Ilunga et nous mettons un terme à ce journal coordonné par Noëlla Luzitukabambi. Supervision de Axel Goncho à la technique Dieudonné Nyangasa et la présentation de Belinda Bosuma. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Radio Capi.